Est-ce qu'il y a autre chose?
Je sais pas, c'est possible de lire les questions écrites?
Ah, voyons.
Il y en a beaucoup et il y en a qui ne confirment pas trop. Moi, je
dis, ah, bah, d'autres questions.
Vous comme ça, vous vous aviez envie de parler.
Faites votre boulot, bon.
Mais je veux bien faire mon boulot, mais
allez-y.
C'est long, là. Alors, j'ai celle-là.
Moi, par exemple. Hein?
J'ai eu un témoignage d'une mère de famille qui avait une relation très difficile avec ses deux enfants. Elle a été voir un père exorciste qui, après un entretien et de longues prières, a eu la révélation que cette femme avait déjà eu deux enfants dont elle avait avorté. Dès que cette femme a de nouveau accueilli ses deux premiers enfants avortés, la relation avec ses deux derniers enfants vivants s'est immédiatement améliorée.
Oui, ben, donc c'est pas une question, c'est un témoignage.
Bravo.
Alors, bah, si ta maternité, qui est à moitié bouchée, complètement débouchée, eh ben, ça va mieux avec les autres qui sont survivants, évidemment. C'est sûr.
Je lis encore.
Ah ben, c'est pas dit que ça...
Parce que j'ai pas lu avant.
Allez-y.
Alors, un homme a donné son accord pour un avortement à la femme qu'il aimait. Cette femme est ensuite devenue son épouse en église. Le ménage a divorcé et l'homme s'est converti. Dès qu'il a compris la gravité de cet accord d'avortement, l'homme a demandé le baptême spirituel de cet enfant qui était une fille et qui a reçu le prénom de Marie pour son baptême spirituel. Sans l'accord de la mère qui n'est pas dans la foi. Plus tard, par une âme privilégiée, l'homme a appris qu'il n'était pas le père biologique de cet enfant, qui en fait était le fruit d'une infidélité.
Oui, et alors
il y a pas
Eh bien, c'est très simple, le père, lui, est le vrai père de l'enfant, même s'il n'est pas le père biologique, puisque le père biologique pense que cet enfant n'existe pas. Ce père-là sait que cet enfant existe, et il décide d'en être le père, et donc il en est le père.
D'accord.
Autre question.
Un baptême spirituel peut-il être demandé par un tiers qui n'est, ben vous l'avez, donc on a déjà entendu,
oui.
Qui n'est pas un des parents biologiques. Est-ce que ces enfants meurent quand la mère meurt?
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, oui. Ah, ça, c'est une très chouette question. Oui, parce que, bon, ces enfants, ils sont conçus, puis ils se multiplient des millions de fois, des dizaines de millions de fois, des centaines de millions de fois, ils multiplient, ils délestent, donc, de leurs cellules staminales embryonnaires, puis ensuite, ils naissent, mais il y a toujours les cellules staminales embryonnaires dans le corps de la mère qui restent, dans le sang et dans le néphrax, et je veux dire, surtout dans la moelle osseuse. Donc, voilà, donc chaque mère, même si les enfants n'ont pas avorté, ils ont ces enfants, bon... Voilà, vous avez eu 7 enfants, plus 2 avortés. Bon, bah, vous avez 9 enfants présents corporellement en vous dans leurs cellules staminales embryonnaires, ça va? Et pendant 50 ans. Et ces cellules-là sont vivantes et elles portent quelque part un fil, j'allais dire, sans rupture, hein, un fil continu de lumière et de vie de l'enfant à, par là. Et où le corps, s'ils sont vivants, s'ils sont pas avortés, s'ils sont pas nonnés, et s'ils sont nonnés avec l'âme. Voilà, donc très bien. Alors la question c'est, et ces cellules staminales vont durer une cinquantaine d'années, d'après ce que dit le professeur Mancuso, hein. Cellules staminales embryonnaires, c'est drôlement beau de voir ça, d'accord. Du coup, grâce à ça, l'âme de ces enfants grandit, 30 ans après, ils ont 30 ans, etc., et leur visage, tout. Ah oui, pas de chance, 3 ans après l'avortement, la mère est au Bataclan, et puis... oui, la mère est au Bataclan, et puis elle meurt. Bon, le sacrifice rituel à Satan, organisé par une espèce de nats d'Orient, n'est-ce pas? Marche bien.
Alors.
Et donc les cellules staminales qui sont en elle, qu'est-ce qui se passe? Alors le corps de la mère meurt. C'est vrai, les cellules vivantes et biologiques de la mère meurent toutes. Hein. Toutes. 4 jours après, il n'y en a plus une seule qui soit vivante. Et en plus, tiens, on la passe au four crématoire. Donc, hein? C'est quand même quelque chose.
Oui.
Voilà. Écoutez, je ne suis pas omniscient, d'accord, mais quand même, on peut quand même suggérer quelques petites choses, quelques petits points. Je dis, je préfère me situer par rapport à la cause finale. Je me situe par rapport à la cause finale. Je me situe dans la Jérusalem spirituelle de Dieu. Je me situe dans l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. Je me situe dans le cœur immaculé de Marie dans son triomphe à la fin. D'accord ? Je me situe dans la paternité hein, du nouvel Israël de Dieu. Je me situe dans cette victoire des apôtres des derniers temps jusqu'au vol libre, jusque dans les noces de l'agneau. Et là, si je me situe là, je veux dire, on est dans le miracle des trois éléments et l'écoulement du corps spirituel venu d'en haut dans notre corps primordial. De sorte que, pour moi, si on vit par anticipation, mais même déjà au cinquième sceau de l'Apocalypse, notre génération, et c'est un des aspects de la guerre victorieuse du grand saint des temps d'aujourd'hui, du grand monarque du nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes, c'est que j'obtiens de fait, par le fait, et dans le réel, même biologique, tachyonique de notre terre, j'obtiens qu'il y ait de la Sainte Famille glorieuse des cellules biologiques, staminales, embryonnaires, glorieuses, dans le corps, bref, du corps, le corps spirituel s'écoule dans les cellules staminales embryonnaires de ces enfants. Vous comprenez? Et c'est la théologie mystique du corps. Hein. Quand la fécondité glorieuse, c'est ça pour ça que l'Église a d'abord prononcé le mystère de l'Immaculée Conception, puis de l'infaillibilité, puis de l'Assomption. Du coup, la fécondité du corps maternel de Marie devient royale. Donc, je peux très bien, si mon corps s'engloutit en elle, il y a un flux et un reflux, et du coup, des cellules émanant de la famille glorieuse assumée de Jésus-Marie-Joseph, engendre à l'intérieur de moi, dans mon corps terrestre, un corps spirituel venu d'en haut, qui est reçu dans mon corps actuel, réceptif et disponible par rapport à l'unité du corps mystique de l'Église. Ça va? Bon, et bien ça, ces cellules, le corps spirituel venu d'en haut, celui-là, il est indestructible. C'est pour ça que dans l'eschatologie, avant qu'il y ait la définition dogmatique, il faut qu'il y ait la mise en place du corps spirituel une en haut pour tous ses enfants, c'est 200 milliards à chaque messe. Et ça, nous avons autorité pour faire ça. De sorte que si la mère meurt, vous inquiétez pas, ses enfants gardent quelque chose, biologiquement, ne serait-ce que du plan tachyonique, de toute façon, de leur corps spirituel venu d'en haut, et donc ils ont encore quelque chose qui relève de la matière primordiale dans leur âme, qui doit encore continuer leur plein développement, épanouissement dans le combat spirituel de l'Église militante. Je réponds pas parfaitement à la question, mais un peu quand même.
C'est-à-dire que leur corps spirituel venu d'en haut se met en place beaucoup plus vite que pour nous.
Pareil. Les lois de naturel du corps biologique restent les mêmes, parce que la sagesse créatrice de Dieu ne change pas ses lois. C'est pour ça qu'il a fallu 19 ans pour Saint Joseph, pour être la source assumée de la création de l'Immaculée Conception. Il a fallu 19 ans. Parce que c'est le temps qu'il faut. entre 10 ans plus 10 ans. Vous avez compris. Vous savez pourquoi en tant que médecin, hein?
Moi, je peux continuer à lire.
C'est pas.
Alors, comment. Je lis. Bon. Comment faire pour casser une consécration satanique sur un enfant innocent? C'est la question qui est marquée.
Ah. Ah, comment faire pour casser. Très. Question très importante. Elle est très importante puisque il y a des enfants qui sont conçus pour être consacrés à Satan par leur mère, pour être donnés à des prêtres lucifériens, à des personnes des degrés de nos chères fraternités, chers ateliers. Et il y a évidemment donc, c'est pas une légende du tout, hein. Et c'est pas du conspirationnisme de dire ça, parce que moi j'ai des témoignages oculaires en tant que prêtre. Je suis pas le seul en plus. Bien sûr qu'il y a de la pédocriminalité occulte dans les ateliers et dans les fraternités de ceux qui ont le pouvoir et les affinités de Lucifer. Et il y en a pas peu. Et donc, vous savez, bon, ça. Je vais vous dire un truc qui n'est un secret pour personne, puisque c'est officiel. Quand vous arrivez déjà au 8e degré, c'est pas un grand degré, vous devez consacrer vos enfants. Vous faites une assignation de vos enfants au sang du corps mystique dans lequel vous entrez. Et même, vous devez les donner au 10e degré ou 11e, ça dépend, hein, si vous êtes dans quelle loge, bien sûr. C'est pas pareil, le Grand Orient, la loge d'Écosse, machin. Bon, je passe sur ces détails. Mais en tout cas, à un moment donné, je dois, par un rituel bien spécifique, considérer que mes enfants sont à la merci, vie et mort, des vénérables si je trahis. C'est comme ça, je crois, qu'on a retrouvé le fils de M. Fontanet pendu dans sa cellule au séminaire de Rome. Je donne droit sur mes enfants, vie et mort, si je trahis. Et il y a... c'est comme ça. Et vous savez, je suis parti à une bénédictin, différentes congrégations. J'ai vu, moi, des gens qui sont entrés dans les ateliers. Ils ont fait leurs premières initiations. Et puis, ils ont dit, bon, ils ont fait admettre que c'était pas la peine qu'ils continuent, puisqu'ils rentraient dans la vie monastique, catholique. Mais les assignations, les sceaux, les rituels qui ont été opérés, est-ce qu'ils ont été brisés, arrachés? Non. Et ils rentrent à l'intérieur, et qu'ils le veuillent non, ils n'en peuvent rien, ils restent des taupes. Et ils font un mal fou. Ils détruisent tout, sans même s'en rendre compte. C'est très très grave d'accepter quelqu'un qui est passé par là sans le faire passer par au moins 10 ans d'exorcisme, de libération et de renoncement, et aussi de liturgie spécifique pour inverser en consécration de sainteté ces rituels-là, un à un. Et donner toute l'autorité à la congrégation à ces gens-là, c'est diabolique. Parce que très vite, au bout de 2 ans, c'est eux qui dirigent la dite congrégation. On a vu ça, je m'excuse de vous le dire, mais nous avons vu ça, ces tentatives, on en a démasqué 4. Je me rappelle aux béatitudes. On en a démasqué, et il y en a d'autres qu'on n'a pas démasqué. Et dans tout... Non, je ne parle pas des autres communes. Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, bon. C'est sûr qu'il faut faire très attention. Là, je me rappelle, une fois, on avait été chez un prêtre et... Qu'est-ce qui se passait dans ce presbytère? C'était près de Thomanova, enfin, c'était près de Perpignan. Ouais. C'est pas... C'était affreux. Et en fait, il y avait eu effectivement une enfant qui avait été sacrifiée. Et dans un rituel occulte, hein, la pédocriminalité occulte. Oh, ça se passe de manière innocente. Hein. C'est pour le bien. Hein. Les gens font ça en toute bonne conscience. Hein. C'est pour le bien. Hein. Bon, peu importe, je laisse tomber l'état de conscience de ceux qui font ça. Mais la victime, elle, ça faisait 120 ans à peu près qu'elle était là. Ça avait eu là, elle était encore là. Personne. Personne, oui, parce que quand tu consacres, que tu fais une, c'est pour que le cri, le sang, etc., soit attaché à ce lieu et serve d'instrument, j'allais dire, de sacrement, si vous préférez, à la puissance de Satan dans ce lieu. Et tant que tu ne l'as pas repéré, bon, eh ben, on a demandé pardon à cette pauvre fille, que personne, pourtant dans un presbytère quand même. Et bon, on l'a fait, bien sûr. Bon, elle nous a exprimé ensuite sa gratitude, puis elle est partie. Mais bien sûr qu'il faut, c'est des victimes. C'est des victimes. C'est sûr qu'il y a eu le sacrifice rituel du Bataclan, c'est un sacrifice rituel, hein. Ne faites aucune espèce d'illusion. Hein. Et c'est un sacrifice à Satan. Seulement, c'est la première fois que ça prend cette figure. Vous voyez que d'habitude, ça se fait un à un, mais c'est un sacrifice collectif. Il y en a déjà eu. Mais là, c'est presque ouvertement, quoi. Et... Si vous voulez avoir une petite intelligence de ce que ça représente sur le plan des champs morphogénétiques de la communauté humaine, il y a un livre que vous devriez lire, c'est le bouc émissaire de René Girard. Lisez le bouc émissaire. Et von Clausewitz, son dernier bouquin, von Clausewitz, La guerre. René Girard, c'est limpide. C'est limpide. Vous avez tous les mécanismes souterrains des champs morphogénétiques de la communauté humaine. Comment se constitue une unité solide et durable dans une communauté humaine? C'est à cause de ça qu'on peut faire des sacrifices rituels, individuels ou collectifs, pour consolider, hein, pour consolider une unité collective, familiale, fraternelle, celle d'un atelier. Ou celle d'une action collective, ou politique. C'est des mécanismes qui sont souterrains, mais qui ont leur loi, un peu comme les veines, le sang, et tous les circuits, j'allais dire nerveux, et le squelette constituent quand même quelque chose, des innervations mutuelles pour la solidité du corps humain. Et pour son unité, c'est pareil, il y a des lois analogues. Pour un Yetzerara, c'est-à-dire pour une communauté humaine dans le mal. Et la guerre eschatologique, elle est basée sur ces connaissances-là. Et face à cette guerre eschatologique, il y a le corps mystique de l'Église. Ça va ?
Ça pourrait aller mieux.
Hein ?
Ça pourrait aller mieux.
Ça pourrait être pire, oui.
Ça pourrait être pire aussi. Hein.
Mais... Nous, on s'en fiche puisque on sait très très bien contrairement à ce qu'a dit ce monsieur là à ma gauche, qui est un garçon charmant apparemment. Je comprends son scandale, mais je sais que l'Église est infaillible. Et puis et qu'elle sait une à une les pas qu'elle doit faire dans la grâce. Et que si je mets la charrue avant les bœufs, c'est sûr que j'ai perdu la guerre.
Et la stratégie, ça.
Parce que si je mets la charrue avant les bœufs et que je fonce, il y a la charrue devant et tout, je peux plus avancer, je peux plus tirer. Et c'est là la faillibilité de l'Église. Et nous, on sait, on peut, grâce à la sagesse catholique, se nourrissant de la doctrine infaillible, mystique, etc., de l'Église, de la recherche de la vérité totale, on peut voir les éléments. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Et on peut voir, avec grâce au Saint-Esprit, qu'effectivement, c'est pas si mauvais que ça, que ce soit pas encore fait ici-là, parce que, justement, si on le faisait, ça détruirait toute la stratégie, si je puis dire, d'amour de lumière, où on doit respecter, évidemment, d'abord, les priorités de charité, de lumière et de vérité. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai pas répondu, hein. Comment est-ce qu'on fait pour briser une consécration? Alors, on fait, il suffit simplement, enfin, il suffit, je m'excuse de dire ça, entre minuit, Saint-Hildegarde, hein, d'accord? Donc il faut, nous avons toute autorité pour rejeter dans l'aquilon et dans le vide ce qu'ils ont fait dans le plein, ça va? Voilà. Et pour ça, je vous fais référer au livre qui est sorti, qui a été tapé par Sainte Catherine. Je sais plus laquelle c'est, celle-là, où on voit les prières de la nuit. Vous verrez, c'est à la fin de ce livre qu'il y a la prise d'autorité pour la destruction. Pour la destruction, hein, de toutes les conséquences, séquelles, etc., assignation et compagnie, faites aux enfants consacrés à Lucifer par leurs parents, consacrés à leurs vénérables, hein, consacrés à leur loge. C'est pas très compliqué, je pense, hein, de toute façon. Je prends autorité, je les adopte. J'arrache hors d'eux, je coupe, etc. Toujours pareil. Mais il y a une formulation qui est proposée. Vous avez un petit livret sur un site catholique. On m'a entendu parler d'un site catholique du net. Catholique du net, je crois. Je crois. Enfin, c'est pas maçonnique du net, c'est catholique du net. C'est pas bouddhiste du net, c'est catholique. Voilà, et là dedans il y a un petit livre qui s'appelle Combat spirituel, PDF, on m'a dit ça. Et là on m'a dit que page 42 à 47, il y a une prière pour arracher, hein, une assignation, hein, sur quelqu'un. Il faut le savoir par cœur, hein, 42 à 47 c'est vite appris par cœur. C'est quoi l'autre question?
Je sais pas, vous voulez pas regarder
le livre? Ah non, je sais pas lire.
Celle-là, vous avez
dit. Plus. Non, j'ai eu du problème là.
Ah, je ne sais pas si elle vous intéresse ou pas, parce que bon, il y a deux ou trois questions, mais j'ai l'impression qu'on a déjà.
Comment briser les malédictions qui pèsent sur une famille après un avortement sur les... Mais ça, on a répondu.
On a répondu. Ça.
Il n'y a pas de malédiction sur une famille où il y a eu un avortement. Comment briser une malédiction? Il n'y a pas de malédiction. Personne n'a dit du mal, et nous on dit du bien, parce que, et on s'en réjouit parce que cet enfant existe, il est vivant, et ça fait un enfant de Dieu de plus pour la gloire et glorifier Dieu éternellement. Donc il n'y a pas de malédiction, puisque Dieu l'a créé dans le oui et l'innocence divine. Donc il n'y a qu'une bénédiction pour un enfant avorté. La malédiction n'existe pas. Comprenez bien qu'il n'y a pas de malédiction dans la famille ou un avortement. Enfin, il y a un manque de charité D'accord. Il y a une chose à faire, il y a une mission à accomplir, il y a une sainteté à actuer. D'accord. Il n'y a pas de malédiction. Qui a prononcé la malédiction? Personne n'a dit du mal. Sauf la névrose, des séquelles négatives, de la conscience de culpabilité. Hein? Donc, Agapé Pneumothérapie, numéro 8 et 9. Délivrance des séquelles et des conséquences négatives de la conscience de culpabilité. Vous devez tous faire ça quand même, au moins une fois dans votre vie. Hein? Vous débarrasser des conséquences négatives de la conscience de culpabilité, parce que ça, la conscience de culpabilité, c'est spirituel pour le coup. Hein. C'est pas le sentiment de culpabilité, c'est psychologique. Hein. C'est désastreux, hein, les conséquences négatives du sentiment de culpabilité. Mais c'est désastreux psychologiquement, ça fait des gens tordus. Hein. Je suis très psychotique, névrotique, vite, vite, prosactique. Mais c'est psy. Tandis que quand c'est les conséquences négatives les séquelles négatives de la conscience de culpabilité, attention, ça c'est spirituel. Alors il faut se débarrasser. Hein. Agapé pneumatothérapie. Arrêtez avec ces agapé thérapies métapsychiques, parce que soi-disant spirituelles, puis on m'a fait intervenir en plus la bénédiction chrétienne dessus. Pneumato surnaturel, s'il vous plaît. Le combat porte sur le plan surnaturel dans la métaphysique du corps, de l'âme et de l'esprit. Pneumato surnaturel. Si vous avez fait 20 ans d'agapé thérapie, vous avez perdu 20 ans. Pendant 20 ans, vous avez réparé tous les problèmes qui sont venus de votre... Voilà. Hein? Non mais, vous avez perdu là 20 siècles, parce que quelquefois vous remontez à des siècles. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Comment intégrer les enfants à la communion eucharistique ? Je crois qu'on l'a dit. Comment faire les faire participer à chaque sacrement et leur permettre de participer au salut du monde ? Ben, je crois qu'on l'a dit. René Girard, bon. Question. À la création, existe-t-il dans... À la création... Existe-t-il dans l'essence humaine advenue la masculinité et la féminité? Cette question se pose pour répondre à l'affirmation de certains que nous sommes sans sexe masculin féminin dès le départ. Ben alors, attendez. Dans le génome, lorsque le voile mitotique, l'ADN mitochondrial, qui d'ailleurs s'illumine en fulgurant et en séparant pour faire l'amphyxie, c'est-à-dire le mélange de toutes les séquences génétiques, déjà, on sait si c'est XX ou XY qui apparaîtra. Donc la masculinité et la féminité n'apparaissent pas à la constitution en 1 milliard de secondes du nouveau génome. On sait déjà avant. N'est-ce pas vrai ? Monsieur le docteur en médecine, très bien. Donc non seulement elle n'apparaît pas après, mais elle existe, elle détermine déjà avant. On sait déjà quelle sera la masculinité et la féminité de cet embryon, alors qu'il n'existe pas encore dans le génome. Est-ce vrai, docteur? Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Qu'est-ce que vous avez travaillé cette nuit? Vous avez une effervescence. Que deviennent les corps des enfants avortés dans les hôpitaux? Ah ben, ça part dans les cosmétiques. 80% des cosmétiques sont faits avec des organes biologiques qui viennent des avortements. Si bien que tous ceux qui mettent leur rimmel, leur machin, etc., participent directement à l'avortement. Et d'après la Sainte Église, toute participation directe et sans voile à l'avortement opère l'excommunication ipso facto. Donc j'engage les femmes à ne jamais mettre de rimmel ou autre produit cosmétique, à moins d'avoir vérifié avant que c'est dans le cas des 12% où il n'y a pas d'extrait biologique qui tous viennent d'un enfant avorté. Quiconque continuerait le sachant, eh bien, il est excommunié ipso facto par un décret infaillible du Saint-Père écrit noir sur blanc dans la Vaginium Vitae. Vous le saviez tous, je ne sais pas, messieurs et mesdames. Non, vous inquiétez pas, c'est pas des extraits biologiques de l'hippopotame. Non.
Et qui a écrit extraits biologiques, ça vient de ça.
Eh oui. Mais oui.
C'est même pas sûr.
Mais oui. Mais vous êtes belles, mesdames, sans peinture abortive. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Il y a ça, cette phrase-là.
Ah, guérison de l'arbre généalogique. Est-ce que ça sert à quelque chose, la guérison de l'arbre généalogique ? Réponse. Permettez, il y a eu des bouquins. Ah là, il y en a des bouquins, là. Alors, moi, personnellement, je suis philosophe, d'accord ? Donc, c'est le réalisme qui compte, pas l'imagination. Donc, il faut exorciser toute imagination, à tout prix. Mais, ceci étant, il y a quand même un support réel, il y a quand même quelque chose de réel. Je suis issu de ma mère est elle-même issue de sa mère, etc. Bon, et on monte comme ça, hein, je veux dire, il y a une mémoire d'humanité, je descends d'Abraham. Hein. La preuve, le roi de France, il descend d'Abraham par Jacob. Hein. Et même le roi David, et même ça se rencontre avec la tribu de Gad. Et en plus, par le jumeau du fils de Jacob. Donc quand même, et puis il y a une bénédiction, et c'est sur 1000 générations. Enfin bref, il y a quelque chose qui suit quand même. Il y a du réel, c'est évident que c'est du réel. Heureusement qu'il y a l'Immaculée Conception, parce que l'Immaculée Conception, elle lave 1000 fois, 1000 générations. Donc c'est pas la peine de prendre une génération et dire « Ah, oh, il y a eu ici à la 20e génération. Ah, ici, il y a un truc à 18e. Ah, ici, il y a une cousin germain, des cousins germains de la belle-sœur de la putain qui a fait le bâtard de la 14e génération. » Attention, hein. Alors, vous pouvez... Ça peut durer... 20 siècles de thérapie, vous n'aurez pas fini, hein. Sur l'arbre généalogique, vous n'aurez jamais fini, même au bout de 20 siècles, sans vous arrêter, en faisant exactement ce qu'il y a à faire. Une chose après l'autre. Bon, soyons réalistes. Soyons réalistes. Moi, il me semble que le seul réalisme, si vous avez écouté Alexandra, docteur Caudanrion, Alexandra, là, voilà, l'autre jour à son émission pour expliquer bon, là, qu'est-ce qui se passe, il me dit, mais attendez, quand vous faites... quand vous êtes un embryon, enfin, quand vous venez d'apparaître à la vie, quand vous êtes un être humain, vous avez, voilà, il n'y a pas que le génome qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Là. Les déterminations de votre personnalité, même spirituelle, et en tout cas biologique, et en tout cas du corps animé métaphysiquement, les déterminations principales ne sont pas nécessairement le génome. Et il y a d'autres déterminations qui ont une importance dans le conditionnement de votre personne, de ce que vous êtes dans votre personne, et du conditionnement aussi de votre acquiescement à votre mission, bah, on le voit bien. Hein. L'Immaculée Conception est bien sortie de quelque chose qui la précède. Alors, et elle disait, biologiquement, dis-moi, je suis une femme, voilà, là, dans la salle, il y a une femme, très bien, et bien, les autres, c'est des hommes, bon, et bien, on n'est que deux à avoir porté des choses extraordinaires. Parce que si on peut faire un génome, si on peut fabriquer un nouveau un clone, si on veut fabriquer une copie avec un clone, etc., on peut le faire. Mais ce que nous portons, personne, jamais, ne pourra le produire. Les ovules. Personne ne pourra créer des ovules. Personne ne pourra jamais créer ce que nous, les femmes, nous portons. Et les ovules que les ovules que je porte aujourd'hui et qui ont donné naissance à mes 5 enfants et les ovules que je porte qui donneront naissance peut-être aux enfants qui vont venir, je les portais tous sans exception avant de naître. Donc quand j'étais dans le ventre maternel de ma mère, c'est ma mère qui a créé ces ovules, hein, dans mon corps de petit embryon. Et donc nous avons été deux à créer, et avec l'influence maternelle bien sûr, de l'ovule que je suis. Donc ça remonte à la grand-mère. Donc chaque ovule est déterminé par 3 générations biologiquement parlant. Et c'est ça, disait-elle, et ça, ils sont tous là. Il n'y a pas un seul ovule qui est constitué après la naissance d'une petite fille. Pas un seul. N'est-ce pas, docteur? Bon, vous voyez, finalement, j'ai bien suivi vos leçons. Et donc, le docteur, le professeur Alexandre, salpêtrière, un des plus grands chercheurs internationaux sur la génétique, etc., dit ceci, que l'ovule apporte la détermination individuelle, d'individuation et de personnalité, etc., principale, c'est pas le génome. Le génome apporte de quoi faire l'unité dans l'un, spirituellement parlant, de tout le complexe de la personne. Ça va ? Mais l'ovule, il n'y a pas de génome dans l'ovule. Voilà. Donc attention, et ça, personne ne pourra jamais le créer, le produire. Un clone en pourra, mais pas ça. Voilà. Donc attention, donc si on veut faire un clone, ce ne sera jamais une copie. Parce que la détermination principale, elle vient sur 3 générations avant déjà. Et ce sera toujours 2 ovules différents, de toute façon. Moi, je l'aime bien, Alexandra. C'est une copine de mon frère jumeau. Elle est chouette, hein? Et ma mère, quand elle l'a vue, elle dit, mais elle est charmante. Elle dit, maman, elle est mariée. Et c'est pas les seules choses qui font la nature personnelle, métaphysique et spirituelle de l'être humain, j'allais dire comme instrument dans l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Il n'y a pas que l'ovule et le génome. Et il y a aussi les mitochondries, etc. Enfin bref, je n'ai...
J'étais parti.
Mais vous n'êtes pas besoin de passer sous la table. Et je trouve ça très bien. Là, je préfère, voyez, passer par le support matériel. Pour nous, le salut est dans le corps de l'homme. Le Verbe de Dieu est venu déterminer, imprégner hypostatiquement le corps de l'homme. Donc arrêtez de passer par les trucs métapsychico-dingos, des blessures généalogiques. Les initiés tels que le docteur...
Celle-là que vous en remerciez. Bon, ça fait rien.
Les initiés tels, le docteur... Alors là, vous avez un coup de...
Il y a Simon.
Pour la France, qui ont élaboré le projet de loi sur l'IVG, ont-ils organisé leur stratégie sur la base d'un projet de sacrifice rituel à Satan ? Le docteur Ouin avait été grand maître du Grand Orient de France. M'en fous, que ce soit du Grand Orient de France ou n'importe quel autre atelier, c'est toujours la pieuvre noire. C'est un seul corps mystique irrigué par un seul sang, celui de la pieuvre noire et de Lucifer. L'Église les considère tous comme appartenant à un seul corps mystique, quel que soit. Donc, alors maintenant, lui, le docteur a élaboré le projet de loi. Non,
c'est celle-là maintenant.
Non, je n'ai pas répondu à la question.
Ah bon, pardon. C'est moi.
Vous allez exaspérer les personnes qui ont posé la question. Est-ce qu'il a organisé sa stratégie sur la base d'un projet de sacrifice rituel à Satan ? Évidemment, ça fait partie de la grèce scatologique. Ceux qui sont ici, qui nous écoutent, sont censés avoir assimilé votre première interview, votre seconde interview, votre troisième interview et votre quatrième interview, ainsi que la cinquième interview, dans laquelle la réponse est donnée à cette question. Donc, nous ne partons pas à partir de rien. Nous prenons la suite de ces interviews sur M et le troisième secret. La guerre contre la procréation est une guerre eschatologique. Et elle est menée par des affidés qui savent ce qu'ils font, bien sûr. Et chaque étape compte. Et eux, ils respectent les étapes. Et l'Église aussi respecte les étapes. Elle fait ce qu'il faut, bien sûr. Hein. Dès que, à la 74, c'est vrai qu'il y a eu cette loi donc, pour la France de 1974, elle ne pouvait pas être votée avant qu'il y ait eu un Sicutsmeshom sur les sacrements qui touchent le corps de l'Église. Donc, tant qu'on n'avait pas dévasté l'engendrement dans le corps du Christ, du pouvoir épiscopal, sacerdotal et eucharistique, dans sa force de communion unitive de la paix dans le monde, il était impossible de sortir la loi donc sur la destruction de la présence de la ressemblance divine de Dieu avant la naissance. C'était impossible. Tout ça est expliqué, bien sûr, dans la quatrième interview que vous avez magistralement dirigée. Alors, bien sûr, mais bien sûr, vous comprenez bien que c'est extraordinaire, 200 milliards, du coup, ça a marché, hein, 200 milliards, c'est pas rien. Hein. Il n'y a que 7 milliards de survivants ayant le même âge, 200 milliards à côté, avec leur cri silencieux, cri de mort. Cri silencieux, cri de mort. Tu te rends compte, la Terre tout entière, pour chaque personne survivante, tu vois ça? Ça fait quoi? Ça fait chacun doit porter combien alors? Je sais pas moi. Excusez-moi, 200 divisé par 7, ça fait quoi? 3 fois 330? C'est énorme. Pour chaque être humain sur la Terre, on doit porter le poids de 30 cris de mort. De 30 cris de mort, continuellement, d'incompréhension, de confusion. J'ai la gratitude d'exister, mais ma vie. J'ai la gratitude d'exister, c'est sûr, mais ma vie. Et ça, c'est un poids métaphysique étonnant. Et qui pèse. Son cri de mort et de soif, de détresse et d'absence de réponse. Et c'est sûr que c'est l'intention des affidés de Lucifer. Vous trouverez ça, je crois. Il y a un site qui s'appelle le site catholique. Il y a une page très intéressante, vous verrez. Je l'ai aperçu, figure, il n'y a pas si longtemps ça, il y a 3-4 jours. Il y a un truc qui a marqué non-né à un endroit. Ah, vous tombez sur la page non-né. Ah, il y a, et dedans, mais ah, dis donc, il y a une page complètement dingue. Une page complètement dingue. Qui explique ça, justement, tiens. Il explique pourquoi l'intention métaphysique collective dans le combat eschatologique, de l'effet que ça produit sur les champs morphogénétiques de la surface de la Terre, ce cri silencieux qui domine toutes les consciences humaines morphogénétiquement parlant. Et on est quand même sacrément enveloppé. Hein. Oui. Alors, il y a deux. Alors, on corrige l'orateur.
Non. Ouais.
Il y a 220 000 par jour dans le monde minimum statistique de l'ONU. Mais où ? Dans le monde. Négatif, puisque si je vous dis 200 milliards en 40 ans, si je fais une péréquation, ça fait 5 milliards par an. Donc 200 000, on est loin.
Hein.
Par jour.
C'était pas marqué sur le papier.
Bon, moi j'ai pas ma calculatrice, alors.
Moi j'ai l'impression qu'on a un peu répondu à certaines questions. Mais bon.
Les enfants non nés sont encore vivants par les cellules staminales embryonnaires dans leur maman. Oui ou non ?
Vous en avez parlé.
Ben, les enfants non nés, c'est pas parce qu'ils sont non nés qu'ils sont morts. Bon.
Vous en avez déjà parlé.
Bon, par exemple, vous avez un enfant, d'accord ? Et puis, voilà.
Par an.
Quoi, 80 millions par an ? 200 divisé par 40.
Sur la base de 220 000 enfants. Enfin,
200 milliards d'avortements divisé par 40 ans.
Ah non, c'est pas ça, la question.
220 milliards divisé par 40.
Ça serait 800. Marie.
Vous êtes sourds ou quoi ? Ah, les ingénieurs, EDF, GDF, ça paye. Hein. Hein, plein gaz. Hein. Comprenez pourquoi les centrales nucléaires ne marchent pas. Quoi. Moi, je vais me syndicaliser si ça continue. Hein ? 5 milliards par an, c'est ce que je disais. Bon, alors, divisé par 100, divisé par 365. Ben, on a perdu la guerre avec vous. Hein, c'est parce qu'il faut tirer immédiatement. Hein. Hein, attention. Bon, alors. Attention. Bon, si moi je mets au monde des enfants, c'est toujours au 7e mois. Hein. Toujours. Allez hop, ça n'est pas. Très bien. Bizarre, tiens, celui-là, 8e mois, il y a encore, 9e mois, il y a encore. Très bien. Donc, au 8e mois, il n'est toujours pas né. Au 9e mois, il n'est toujours pas né. C'est un non-né, mais il vit encore. Écoutez, on n'est pas autorisé à être idiot. D'accord ? Donc. La mort, c'est quoi la mort ?
C'est l'entrée dans ma vie.
La mort, c'est pas la mort. C'est pas le médecin qui va nous dire ce que c'est que la mort, quand même. Ce médecin, il n'en sait strictement rien. Il peut savoir, tiens, que les ondes cérébrales sont là. Les ondes cardiaques ici. Je me rappelle, j'avais été voir le vieux père Emmanuel qui était dans son lit à l'hôpital là-bas, à Nice. Et il y avait tous les écrans. De... Et puis le cardiaque. Et puis il y en avait un troisième, je ne sais pas à quoi il servait. Je ne sais plus. Bon. Et puis. Ah, Patrick, tu es là. Bon. Tu le sais, ça ne me fait pas trop plaisir. Je dis, oui, je sais, mon père, mais bon, je viens vous voir quand même. Bon, alors écoute, je profite de cela, je vais te dire deux, trois petites choses. Et, dis, mon père, je suis venu voir si vous allez bien, et je vais te dire deux, trois petites choses. Je pense que c'est important. J'avais pas eu du tout envie qu'il me dise ces deux, trois petites choses, parce que... Et d'un seul coup, je vois les écrans. Je vois les écrans. Elle dit, oh, vous savez, mon père, je crois pas. Ah, mais je te dis. À ce moment-là... Premier écran, en même temps. Deuxième écran, le cœur. Je te dis. Je regarde les écrans. Dis, mon père, arrêtez. Arrêtez. Vous allez mourir. C'était pas idiot à ce point-là, mais enfin, j'en ai profité. Alors, je dis, il me dit, écoute Patrick, quand on va voir un malade, on regarde pas les écrans, c'est le malade qu'on regarde. Pour voir s'il est encore vivant. Bref, le médecin, lui, il considère que la mort est là dès que le cerveau n'a plus aucun mouvement. Bien sûr, on peut faire revenir le massage cardiaque, tout ce que vous voulez, ni le cœur. Et puis le troisième, c'est pour le troisième, il faudrait demander les trois signes. Hein. Il y a trois signes, les trois ensemble, ça y est, il est mort. Voilà, vous pouvez mettre la cravate. Vous pouvez enlever le masque, c'est fini, terminé. On ne peut plus rien faire. Terminé, on ne peut plus faire. Hein ? Oui.
Cérébral et médical.
Oui, c'est ça, il y en a trois. Alors là, je peux signer la vie de décès. Est-ce que l'âme est sortie du corps ? Réponse, non. Qui est-ce qui l'a dit ? Le pape Karol Wojtyła, le 24 février 1998, a indiqué que c'est l'âme spirituelle qui imprègne et vivifie le génome de l'homme. Il n'y a aucun appareil pour déterminer s'il y a encore la vivification de la memoria dei dans le génome. Il n'y a aucun instrument. Et pour cause, parce qu'on pourrait faire l'instrument, mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils ne veulent pas le faire. Eh oui, et donc l'âme reste toujours là, présente, pour retrouver, c'est là ça la providence extraordinaire de Dieu, pour retrouver cet état de liberté qu'elle avait perdu, parce que son cœur fonctionnait, son cerveau et son mental. Et tout coup, par une miséricorde inouïe de Dieu, l'âme retrouve sa lucidité, sa liberté embryonnaire, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, pour y arriver, quelquefois, si les gens se réveillaient un tout petit peu quand même, lorsque les deux ne fonctionnent pas, puis un quand même, on se réveille, il y a eu quand même, toute notre vie est passée, et et puis hop, tiens, on est quand même réveillé parce qu'on m'a fait un massage cardiaque. Mais en fait, c'est parce que c'est un mouvement intérieur de l'âme qui se restitue. Et puis, le capital de l'âme, c'est un capital de vie. Il est très, très, très limité avant de sortir. Donc, il rentre dans ce qu'il y a de plus petit du point de vue de l'animation et principal au point de vue métaphysique, qui met toutes ses forces. Et donc, c'est la memoria dei qui fonctionne le mieux. Et donc, uniquement le génome qui est encore vivant. Et donc, je m'excuse, mais ça revient toujours au même, hein, d'accord ? On est toujours dans, dans la même configuration. Et il y a des gens qui disent quand je serai mort, passez-moi à la crémation. Je peux vous dire, moi, que quand il passe à la crémation, l'âme est encore là. Et elle vivifie et anime le corps entier. Alors vous me direz, Jeanne d'Arc est bien passée par là. Mais quand c'est ton enfant qui te fait ça, ton épouse, même si tu l'as demandé. Ah, vous voyez que c'est un acte sacrilège par rapport à l'existence initiale, primordiale, créatrice de cette personne qui est ton propre enfant, ton propre mari, ton propre... C'est terrible, c'est génial, le démon, il arrive à décrocher le début et décrocher la fin. Je vais le prendre pour lui. Et voilà. Alors, c'est incroyable. Et c'est ça, vous voyez, vous avez quand même les deux axes. Hein. Et donc, en fait, l'âme est toujours là. Moi, je peux vous le dire, quand c'est un peu le pas le métier, mais c'est le service du prêtre, quoi, qui va voir les personnes quand elles sont âgées et qu'elles sont en train de mourir. Et lorsqu'elles sont décédées, je vous le dis, je peux le savoir, moi, quand elles sont décédées, si je peux donner les derniers sacrements, si l'âme y est encore. Cliniquement, la personne, le médecin, il dit, il est mort, à vite décédé. Il dit, ça, vous pouvez vous torcher avec. Le prêtre est quand même capable de voir si l'âme est encore dans le corps. S'il ne s'est pas capable de le voir, il faut surtout pas qu'il soit prêtre. Il n'y a que ça bouddhiste, parce qu'on se brûle hein, quand on est bouddhiste. Hein. Alors la crémation, en avant, ben voilà, pourquoi pas. Donc, attention. Et donc, et il y a, bien sûr, d'accord, tes oreilles ne fonctionnent pas, hein, ta conscience réflexive ne fonctionne pas, mais ta capacité spirituelle réceptive fonctionne très bien, ta passivité spirituelle disponible fonctionne très bien, ton acquiescement à ce que tu reçois fonctionne très bien. Hein? Et pourquoi c'est... J'ai bien répondu à la question là.
Dans le catéchisme de l'Église, l'Église n'est pas formelle à ce sujet.
Ah non, attendez, j'ai pas fini. Les enfants non naissants encore vivants par les cellules staminales embryonnaires dans leur maman. Oui ou non? Eh ben, c'est pareil, je veux dire. Donc, les enfants non nés n'ont pas de circulation cérébrale, n'ont pas de circulation cardiaque, n'ont pas de circulation mentale, mais ils ont encore une vie de l'âme dans la terre du temps. Point. À la ligne. Je veux dire, c'est très simple tout ça. Dès lors que vous avez le principe de la démonstration métaphysique de l'existence de l'âme dans le corps embryonnaire et l'instant exact, etc., après vous comprenez tout le reste. C'est pour ça que tout est suspendu à la démonstration métaphysique irrenversable de l'existence de l'âme spirituelle créée par Dieu dès le premier génome. Et voilà, c'est suspendu à ça. Tout est suspendu à ça. En fait, tout est suspendu à ça. Donc si on a fait perdre 30 ans à l'humanité et à l'Église pour que ça ne se dise pas, pour que ça ne se sache pas, ça fait 30 sur 40 quand même. Hein. Écoute. Oui. Non, mais oui, mais catéchisme, c'est pas le catéchisme, le livre noir, là. Oui, le livre noir, oui. Ah oui, le livre noir, oui. Oui, fait par l'évêque de Tours, là.
Non, le catéchisme de l'Église catholique.
Oui. Oui, c'est toléré. Imaginez, par exemple, on le tolère, mais ça veut pas dire que tu fais ça le lendemain. Attends. Au minimum, si tu le crémationnes, attends au minimum une semaine, enfin.
J'ai une information à dire sur la crémation. C'est quelqu'un qui travaillait là-bas, et deux ou trois fois par an, il voyait les cercueils qui se cabraient. C'est-à-dire
Le bois ?
Non, c'est pas le bois, c'est parce qu'ils sont tous faits de la même manière. Et avec le corps, et quand ils brûlaient, ils brûlent normalement, il y en a des dizaines et des dizaines tous les jours, mais deux, trois fois par an, il a vu les cercueils qui se levaient dedans, du coup il a arrêté de travailler.
Parce qu'à l'intérieur du cercueil, le feu te prend. Et là, et tu te capes dedans, le cercueil. Mais ça, c'est un petit peu comme dans le. C'est un phénomène du corps total face à un feu violent. Ça opère c'est vrai, ça opère cet instinct-là. Hein, donc, c'est. Ça, c'est tout à fait normal, en effet. Mais ça, ça fait pas plus mal que de recevoir une balle de mitrailleuse dans la tête. Bon, ça dure pas longtemps. Ça dure quoi? Tu brûles, hein? Tu grilles en 4 secondes. Bon.
Non, j'ai eu des témoignages de gens qui étaient à l'œuvre. Et justement, ils m'ont fait le témoignage il y a pas longtemps. J'ai participé, enfin, je suis allé. Ils disaient qu'il y avait un souci. C'est que ça mettait de plus en plus de temps à ce que la totalité, donc le cercueil et le corps de la personne, soient ensemble. Et ça a posé problème. Parce que ça faisait de l'énergie en plus à dépenser, etc. Alors lui,
ah oui, ça,
lui,
il a dit
sur un plan très technique. Hein. Lui, il a dit ça brûle comme ça, etc. Il en a de plus en plus. Il avait traité mon médecin. J'avais fait froid dans le dos, mais.
Non, mais écoutez, je m'excuse, quand quelqu'un meurt, il faut se préoccuper de son âme, s'il vous plaît bien. Il faut lui donner les derniers sacrements. Il ne faut pas lui cacher qu'il va mourir. Oh, le pauvre, si on va lui dire qu'il est en train de mourir. Le pauvre, vite la morphine pour qu'il n'ait pas l'impression qu'il va mourir. Vite les états seconds. Vite le matin, vite le comment est-ce que tu appelles ça Ouais, sédatif, d'accord. Et comme ça, il ne se rend pas compte qu'il meurt. Ah, moi, j'ai vu ça. J'ai une jumelle qui a fait en sorte que sa jumelle meurt sans qu'elle sache. Elle était la seule sur 800 personnes qui ne savaient pas qu'elle allait mourir dans une heure. Elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Parce que ça l'aurait fait souffrir. On lui a arraché sa mort. La mort nous appartient. Elle appartient à manière. Oh, ça nous ferait souffrir de savoir qu'elle allait souffrir. Mais on s'occupe quand même de quoi? On s'occupe, on l'aime ou on l'aime pas? Si on l'aime, attends, on a confiance, on est responsable de notre vie, de notre mort, on prend pleine possession de nous-mêmes dans la vie et dans la mort. Donc de refuser la vie à quelqu'un au moment même de sa mort, ça veut dire qu'il y a une haine féroce métaphysique contre elle. C'est parce qu'on est entièrement psy. Oui ou non? Et donc quand même, la première chose, la seule chose à faire, make a good confession, good communion, come back, c'est tout. Voilà, le sacrement. Et, si, et moi, je vous assure, on va là, et il y a quelque chose qui fait, que vous soyez prêtre ou pas prêtre, c'est pas grave. La personne, elle est censée être décédée, c'est évidemment pas vrai. Hein, bon, mais ça va. Et je vois les familles qui les laissent comme ça, là, dans le. Comment est-ce que vous appelez ça, là? Le. C'est incroyable. Alors qu'il suffit de se mettre, à côté. Vous voyez tout de suite si elle est là. Là, vous le voyez, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça se perçoit assez vite. Hein. Et pourquoi? Parce que, bon, surtout si vous avez l'habitude d'être maman ou papa, parce que vous savez si un enfant est là ou pas, hein, par exemple. Bon. Et là, c'est pareil. Donc, voilà, bon, du coup, tu pries, tu t'aperçois qu'il y a la réponse, parce que la prière, c'est de la lumière, hein, donc on prie à deux, dans l'unité des deux, tu vois très bien si tu es tout seul ou bien si on est deux à prier, c'est tout. Hein. Vous n'êtes jamais mort de votre vie? Est-ce que quelqu'un a fait l'expérience de la mort? C'est dommage. Moi, il faudrait que vous priiez pour faire l'expérience de la mort. Moi, ça m'est arrivé de faire l'expérience de la mort. C'est pour ça que je vous dis ça deux fois. Mais je vous assure que quand votre âme s'en va, qu'il ne reste plus rien, pratiquement plus rien, votre capital de vie est en train de disparaître. Ça va partir. Vous croyez que vous ne le savez pas? Et s'il y a quelqu'un qui vient à côté de vous, et il y a le capital de vie tellement anéanti, tellement plus rien, ça va partir. Moi, j'ai vu mourir des ermites et avec le père Emmanuel, ça c'est des choses suaves, suaves. Comment les moines, les religieux, les ermites meurent, quoi, entourés par les autres. C'est délicieux, c'est génial, c'est fou. C'est dingue. Tandis qu'un mari et son épouse et ses enfants, c'est « Oh, il ne faut pas qu'il souffre. Oh, je souffre parce qu'il voudrait souffrir. Est-ce qu'il a souffert? Oh, qu'est-ce que le bonheur, il n'a pas souffert. » Ouh. Complètement psy.
Ouais.
Alors, tandis que là, la personne vient à côté de vous. Je me rappelle, je dis, mais je vais essayer de prier, que je vais essayer de faire. Et toute ma vie, c'est de prier quand même. Donc, en ce moment, pas même pouvoir faire un seul mouvement de disponibilité à la prière. Pas seulement d'actuer une prière, mais de disponibilité à la prière. Ça demande une force. Tu peux pas. Et t'entends le médecin à côté, ah oui, il est déjà à bout là, prenez un petit peu sa tension, enfin, pas besoin de prendre attention, le type il est à la fin. Bon, enfin, peu importe, il y a de la famille qui est là, est-ce qu'il souffre docteur, etc. Bon, attends, tu te rends compte, c'est atroce, c'est atroce. Mais par contre, il y a quelqu'un qui s'approche de toi, et tous les psys de service aussi qui arrivent, pour les soins palliatifs, hein. Ça arrive à la fin. Ils font bien attention hein, que tu ne sois actué en rien sur le plan spirituel, dans tes forces terminales. Hein. Elisabeth Kubler-Ross, attention. La destruction totale de la mort humaine. La transformation métapsychique de la mort humaine en mort métapsychique. C'est fou, quoi, c'est fou. C'est organisé, ça fait partie de la Grèce, c'est sûr. C'est tout un ensemble, c'est tous les champs morphogénétiques hein, qui engloutissent le spirituel lié au corps dans le monde métapsychique qui peut partir en astral et qui donc est incorporé aux forces de l'Antéchrist. Tout est basé là-dessus. C'est ésotérique, tout ça. Hein. Alors, quelqu'un s'approche et puis... Même si tu ne lui touches pas la main, c'est pas grave. Quelqu'un s'approche de toi et puis il dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Je vais faire un « Je vous salue Marie. » « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Mais attention, c'est un « Je vous salue Marie » où c'est la présence, la voix, c'est la présence. La présence de Marie qui reçoit l'Ave Maria de l'ange Gabriel. Et alors à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a dit « Je vous salue Marie » à côté de moi. Ouh, je dis « Enfin. » Voilà, j'ai pas dit, parce que je pouvais pas, mais il y avait quelqu'un qui priait, et du coup, c'était ma prière. Ça change tout. Ça change tout. Si le sacrement des malades est donné à ce moment-là, je peux vous raconter les 5 fois où c'est arrivé à mon arrière-grand-mère. Ça va? Alors c'est important quand même de donner l'aide de charité, de lumière, de force, de vie à la personne en fonction de ce qu'elle est. Alors autre chose maintenant, avec les moyens contraception, avec les contres peut-être, il y a un dièse, ça veut dire quoi? Avec les dièses, avec les différentes contraceptions abortives, comment une mère peut-elle savoir le nombre d'enfants non nés sortis d'elle? Bon, eh ben, ils vont voir un médium, Madame Soleil. Oui, esprit, es-tu là? Combien y en a-t-il? 3,5. S'il y a eu beaucoup, hein, stérilet, par exemple, moyen contragestif, allez, 4 ou 5 en clinique, 3 ou 4 fausses couches, plus le stérilet 6-7 ans, c'est qu'il y en a au moins une quarantaine, de toute façon. Hein. Donc tu peux de toute façon faire une approximation. Tu n'as pas besoin de savoir le nombre exact. Il faut que tu se connaisses, que tu aimes chacun d'entre eux. Par exemple, nous étions 20-25 là. Moi, je vous aime chacun d'entre vous. Chacun. Est-ce que vous avez un peu d'amour pour moi aussi ou pas? Non, d'accord, bon. Mais moi, je vous aime bien. Mais je reconnais que je suis un peu exaspérant.
Non, moi, je me demande comment ils arrivent à te supporter. Moi. C'est pour ça que j'ai fait péter tous les écrans. Parce que
hein? Donc, si vous, avez, vous les aimez, vos enfants. Il y en a 20-25, qu'est-ce que ça peut faire? Vous les aimez tous et chacun. Eh bien, très bien, prenez un joli coussin couvert de soie, brodé d'or, un sourire dessus, une plume. Un yo-yo
sur l'autre coin.
Une tétine. Enfin, démerdez-vous. Et chaque soir, vous pensez à un. Et au jour anniversaire, vous inquiétez pas, ils donnent leur nom. Et à la fin de l'année, vous saurez combien il y en a. Amen. C'est pas la seule méthode.
Et vous en occupez pendant 40 ans.
Vous retombez là.
Hein?
Et vous vous en occupez pendant 40 ans. Pour les suivre.
Mais je m'excuse, si tu as eu. Tu as eu des enfants, toi?
Oh oui.
Ah, tu t'en es occupé juste pendant 6 mois, quoi?
Oh non, non.
Ah, d'accord. Alors.
Après 20 ans, comment c'est un peu libre.
Bon. Comment obtenir le prénom de l'enfant? Ah non, mais là, vraiment, vous exagérez, là. Une maman qui a avorté peut-elle baptiser son enfant? Oh, bah, quand même, vous exagérez. À quel moment l'âme spirituelle est-elle créée par Dieu? Bah, je croyais que je l'avais dit.
Non, mais c'est ce que je vous dis. Il reste quelques questions. Est-ce que vous avez probablement déjà répondu à ça? Par contre, c'est pas sûr.
Ah. Mais c'est moi qui fais tout votre boulot.
Non, mais...
Tout le truc pédagogique devant le truc médiatique. C'est que justement, c'est vous qui posez les questions, moi qui réponds. C'est tout ce qui fait l'intérêt des auditeurs.
Oui, mais j'ai eu les questions. Mais...
Oui, mais si c'est moi, alors donc je vous pose la question, comme ça, peut-être que les auditeurs, ça va les intéresser. Et parce que c'est justement c'est l'aspect dynamique de la chose qui fait que c'est intéressant. C'est parce que vous me posez des questions, je réponds.
Oui,
et moi je vous pose des questions,
dû,
vous me répondez.
J'aurais pas dû.
Du coup, ça passionne les gens parce qu'ils se retrouvent dans les questions que vous posez ou dans les réponses que vous faites, vous comprenez?
Oui, mais moi je veux respecter les gens qui ont écrit les questions.
Ah, bah d'accord, c'est ce que j'avais
alors,
pas compris.
Je ne trie pas.
Donc vous respectez aussi les auditeurs.
Voilà.
Ceux qui nous
après,
écoutent.
Après, c'est vrai que je devrais des fois me dire bon, là.
Mais évidemment. Bon, alors, et donc c'est ça qu'il faut dire. Hein.
Je sais pas là, si, là j'ai l'impression que c'est des questions, peut-être, je sais pas. Regardez-les.
Mais on avait déjà lu ça.
On a répondu non.
Non, on l'avait déjà lu. Comment intégrer les enfants à la communion eucharistique? Les enfants dont on est, je suppose. Mmh. Bon, alors. Et je vais en profiter pour répondre aussi. Comment intégrer des assistants à la messe qui n'ont pas le droit de communier à la communion eucharistique? Eh oui. Vous êtes excommunié, enfin, vous n'avez pas le droit de communier. Et pourtant, vous devez recevoir la communion. Parce que si vous êtes à la messe, c'est pour recevoir la grâce, la bénédiction, la communion, la miséricorde et la présence réelle. Et l'Église est très miséricordieuse puisque elle vous dit ah bon vous n'avez pas le droit de vous approcher matériellement de la communion eucharistique, mais vous êtes prié de venir à la messe, un peu comme pour les catéchumènes, sans vous approcher de la communion matérielle de l'Eucharistie, parce que vous faites partie du corps mystique de l'Église et que vous avez besoin de recevoir la présence réelle de la communion eucharistique. Et donc vous devez la recevoir le plus que vous pouvez, et de préférence, de manière plus, si possible, saint Thomas d'Aquin dirait, au centuple de ceux qui le reçoivent, par intention matérielle dans la bouche. Bon, quand vous assistez à la messe, vous communiez à la présence réelle de Jésus 5 fois, sinon il n'y a pas de transactuation surnaturelle de la transsubstantiation eucharistique dans les noces de l'agneau de la messe. 5. C'est pas compliqué, c'est toujours 5 pour ça. Vous avez l'habitude. D'ailleurs, vous avez fruit des sacrements où ces choses-là sont explicitées. Un site qui s'appelle, je crois, catholique du net, quelque chose comme ça. Catholique du point net, c'est ça. Point net. Catholique du point net. Fruit des sacrements. Voilà, vous avez ça. Bon, alors, j'assiste. Je suis divorcé, par exemple. Voilà. Remarié. Bon. Et l'Église me dit, voilà, venez à la messe. Mais bon, pour pas scandaliser les gens qui sont pas censés être au courant que vous vivez comme frère et sœur. Mais on vit comme frère et sœur. Oui, mais les gens sont pas censés être au courant. Donc pour pas scandaliser les faibles, vous vous approchez pas. Sauf si tout le monde est au courant que vous êtes bien en frère et sœur. Non bon, donc vous n'avez pas le droit de vous approcher pour recevoir la communion. Mais venez quand même, vous allez la recevoir, là, vous la communion, ne vous inquiétez pas. Et donc, il faut que vous appreniez dans votre catéchisme que vous faites à vos enfants, d'ailleurs, qu'il y a 5 manières de communier à la messe. Voilà, d'accord. Voilà, vous mettez à l'intérieur de la patène et vous plongez dans le calice au moment de l'offertoire et vous êtes en communion avec l'offertoire qui va devenir le corps du Christ. Ça y est, vous avez communié une première fois. À la transsubstantiation, vous communiez aussi puisque vous vivez ce que l'Esprit Saint fait, une attraction prodigieuse de la transsubstantiation eucharistique en vous, puisque vous rentrez dans l'union hypostatique déchirée de Jésus et vous communiez à la présence réelle de transsubstantié par la foi, l'espérance et la charité. Puis ensuite vous avez le Notre Père, et vous avez Père Ipsum cum Ipso au moment où on met la petite au bout de l'hostie pour les noces de l'agneau. Aux noces de l'agneau, vous communierez. Et la présence réelle de cette communion de l'agneau, elle est présente réellement à cet instant de la messe. Donc vous envolez comme la douce colombe vers les noces de l'agneau, vous recevez la communion à ce moment-là. Puis enfin, au moment de la communion matérielle où les gens s'approchent, eh bien vous restez là, vous restez à votre place tranquillement, et vous demandez à votre ange gardien de vous amener l'hostie, de vous l'amener et de vous faire communier, donc mystiquement, à la présence réelle. Et enfin, cinquièmement, à l'action de grâce, et c'est ça la communion principale. Pendant que tout le monde est en train de, après la communion, vous restez là, avec ceux qui ont reçu la communion, et qui laissent se déployer la disparition des apparences du pain et du vin en eux par la digestion. Et à ce moment-là, la présence réelle qui est en eux se communique à tout le corps mystique présent dans cette église-là. Et vous recevez réellement, substantiellement, la présence réelle elle-même sans le sacrement. Et c'est la présence réelle que vous recevez. Donc il y a 5 manières de communier. Si vous vous approchez en disant « il nous casse les pieds, moi je vis comme frère et sœur, hein, je m'en casse, etc. Je vis chastement, pas d'un coup fin. » Alors, leur jugement, ils se le mettent dans leur poche et je communie. Et du coup, tu reçois rien du tout. Tandis que si tu fais ça, l'Église te dit, si tu t'approches pas, étant donné que tu es quand même marié à quelqu'un d'autre, même si tu... T'es quand même marié devant les hommes, devant Dieu et les hommes. T'es quand même marié devant les enfants. Et donc, il y a quelque chose. Et tu maries quelqu'un qui marie quelqu'un d'autre. Sacramentellement. Alors, quand même. Donc, si tu t'approches avec un sacrement brisé d'un sacrement qui est là, tu brises dans le sacrement brisé le sacrement qui n'est pas brisé. Et donc tu ne reçois rien du tout. Tu reçois indignement. Et donc tu ne reçois aucune des cinq communions de la messe. Tandis que si tu restes chez toi, si tu restes là, tu reçois dans la présence de la res beaucoup plus, sans aucune comparaison, que celui qui s'est approché matériellement du sacrement en communion. Parce que lui, il a le droit. Et donc toi, tu vis et tu t'y habitues à vivre de la communion à la présence réelle du sacrement, et tu le vis, tu peux en être certain, mais c'est mieux que tous ceux qui s'y sont approchés, puisque tout ton capital de vie, de foi et de communion eucharistique se réalise dans cette communion-là, qui est la communion principale. C'est celle qui est féconde, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui opère la transformation surnaturelle. Et en plus, c'est celle qui t'admise justement à la multiplication dans l'infiniment grand de la communion donnée partout, toujours, à jamais. D'accord ? Donc, si tu fais comme ça, là, tu vas recevoir une communion et ça va t'intégrer au corps mystique de l'Église d'une manière miséricordieusement beaucoup plus forte que ceux qui s'y approchent matériellement, sacramentellement, parce que quand ils s'approchent matériellement, on a un capital de vie qui est limité dans la foi, l'espérance, la charité. Donc on fait très attention qu'au moment où on communie matériel, on fait très attention, on dit amen, on est content, on dit merci Seigneur que l'hostie soit en moi. Bref, on met moins d'action de grâce dans la présence réelle lorsqu'elle apparaît, elle est impure. C'est vrai ça. Donc l'Église, elle ne condamne pas les gens. Elle leur dit comment, par miséricorde, comment il faut faire pour qu'ils reçoivent les bienfaits eucharistiques de cette communion mieux que les autres. C'est pas du tout une condamnation, c'est au contraire une intégration dans quelque chose de plus grand sur le plan de la miséricorde et dans la fécondité universelle du temps et de l'éternité tout de même. L'Église n'a jamais rejeté un pécheur. Jamais, mais elle indique le chemin. Là, par miséricorde, elle indique. Et pourquoi aussi? Elle explique aussi pourquoi. D'accord? Eh bien, quand il s'agit des enfants, c'est pareil. Les enfants, eh bien, les enfants, ils sont là, puisque je les emporte avec moi. Je les porte avec moi. Ils me portent. Et donc, ils reçoivent, bien sûr, ces cinq communions, puisqu'à chaque fois je dis tu bénis ceci et mon corps livré pour vous, et vous vous dites pour vous, c'est pour moi, et c'est pour moi, et c'est pour moi, et puis c'est 200 milliards de fois pour tous ceux que je porte en moi. Et donc, vous les faites communier mystiquement aux cinq formes de la présence réelle communiquées par communion, et ils reçoivent exactement de la même manière. C'est une miséricorde prévenante, prodigieuse, que l'exercice précisément de la nourriture donnée aux enfants non-nés à chaque messe. Et ça s'apprend. Ça, l'Antichrist ne pourra pas l'empêcher, ça. Et c'est ça qui donne la victoire. Ça va? Vous le savez bien, puisque vous, je m'excuse, j'ai honte de vous en parler, parce que quand même, je sais que vous faites ça depuis longtemps. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions?
La dernière. Comment les faire? Oui, ben voilà, c'est bon. Vous avez répondu.
Et pareil pour les autres sacrements. D'accord? Eh oui, vous passez l'indulgence plénière, le jubilé, là, vous passez, tout le mal se détruit en eux, passez-le avec ce que vous portez 200 milliards de fois, et en une fois, vous avez obtenu l'indulgence plénière pour 200 milliards d'enfants, parce qu'il y a du mal aussi en eux, quelque part, puisque le péché originel est là, il y a encore des séquelles du péché originel, et peut-être qu'il n'y a pas eu d'année jubilaire depuis 1975, du point de vue de la miséricorde jubilaire. Alors, quand même, j'espère que vous y avez pensé, n'est-ce pas? Donc, il faut bien sûr que le mal, avec les séquelles, la peine, les satisfactions et la peine du péché, tout le mal qui est d'eux et dont ils sont aussi les récepteurs, soit totalement détruit en eux. J'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait. Je vous vire.
J'ai une réponse sur les... C'est par jour, Oui, c'est des GDF, allez, je m'excuse, hein, on n'est pas avec l'esprit saint tout le temps. Hein. 13 698 000.
Par jour, c'est ça?
Par jour.
Dans le monde, dans le monde.
Dans le monde. Oui, par rapport à la...
14 millions. Quand ça 14, ça va, c'est le chemin de croix pour s'ouvrir. C'est le chemin de croix descendre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et je suis le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.